Alors du coup, on va passer à nos trois temps de table ronde. Hein, donc, on avait prévu 2-3 quarts d'heure, mais je pense qu'on va être plutôt autour d'une demi-heure hein, pour garder le temps et surtout permettre quelques questions dans le public. Donc le premier temps, ça va être faciliter la création. On a essayé de découper sur des thématiques qui nous paraissaient vraiment majeures. Hein. Trois thématiques avec à chaque fois des intervenants qui vont traiter cette question. Le deuxième temps, ce sera explorer un secteur pluriel, hein, définition, mutation et porosité. Et le troisième temps, on sera plutôt sur la question de la réception, médiation, résidence et territoire. Donc je vais laisser Lila, pour le premier temps, présenter ses invités et puis lancer son temps de réflexion.
Oui, merci. Alors peut-être en mini-introduction, il y avait un peu deux questions fondamentales quand on a commencé à travailler autour de notre secteur. Bon, la première, tu l'as abordée, Céline, donc je ne vais pas y revenir en détail, mais c'est sur le mot ICC qui, dans mon petite histoire d'étudiante en école d'art et puis après de professionnelle, enfin d'artiste, je ne l'ai jamais rencontré, donc ça me pose une question quand même d'usage sémantique. Et on s'est demandé sur ce secteur art visuel et art numérique si les ICC étaient quelque chose de plus usuel pour les arts numériques, et que vous prendrez sans doute le temps de questionner ça. La deuxième, c'est la délimitation de notre secteur. J'ai un peu dit assez tentaculaire, donc on a décidé de, et c'est aussi le sens de la division de ces trois temps, de considérer qu'en fait ce qui nous rassemblait, le socle commun, c'était des statuts et des sortes de typologies. En fait, le statut des objets produits de notre secteur sont donc des œuvres, et elles ont vocation à circuler dans des espaces de diffusion et de réception qui sont ceux de l'art contemporain. Et donc toute cette chaîne de conception, production et puis exposition, médiation et enfin peut-être conservation, patrimoine, voilà, sont un peu les points cardinaux qui vont nous guider pendant ces 6 années et qui me semblent nous rassembler. On a listé toute une série de questions qui vont nous occuper, donc je me permettrai rien de vous les lire avant qu'on s'intéresse à notre question du jour. Alors, comment les innovations technologiques, donc IA, réalité augmentée, blockchain, NFT, etc., transforment-elles les pratiques artistiques, leur enseignement et les modèles économiques associés? Quel type de plateforme numérique pourrait être conçue pour renforcer la collaboration entre les artistes, les chercheurs et les industries culturelles et créatives? Comment concilier l'usage croissant de ces technologies, notamment numériques, avec les enjeux éthiques et écologiques de demain et d'aujourd'hui? Comment intégrer des pratiques durables dans la production et la diffusion des œuvres d'art visuel et d'art numérique? Et enfin, comment encourager la reconnaissance institutionnelle et académique des travaux de recherche-création? Et c'est une thématique qui va nous occuper pendant ce premier temps. La question principale qui nous rassemble, c'est comment soutenir aujourd'hui la production et la création artistique. Et pour tenter d'y répondre rapidement, j'ai le plaisir de vous accueillir tous les trois. Estelle Castavo, tu es chef du service de soutien à la création du CNAP, Centre National des Arts Plastiques, et tu es accompagnée de Sarah Rougnot, qui est doctorante en sociologie et qui fait une thèse au CIFRE, qui est une modalité particulière de financement, mais peut-être que tu pourras l'expliciter au CNAP. Et tu travailles, c'est très intéressant, sur ces dispositifs d'aide et leur efficacité, leur impact sur les carrières d'artistes. À ma droite, Jérémy Fogidou, tu es artiste, tu es docteur. Tu es aussi cinéaste et écrivain, je l'ai découvert, et tu travailles sur ton travail s'intéresse aux relations entre humains et autres qu'humains. Et pas non humain, ça j'ai trouvé ça, voilà, autre qu'humain, et à la lumière nos âmes dans les océans. On avait dit qu'on commençait peut-être par un petit moment de définition, donc 5 minutes pour le CNAP, c'est quoi?
Merci beaucoup, je serai très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis à votre disposition si par ailleurs vous avez des questions. Donc en un mot, le Centre national des arts plastiques est l'opérateur du ministère de la Culture pour les arts visuels. Et notamment, sa mission principale est de restaurer, conserver, diffuser et enrichir une collection nationale qui existe depuis la Révolution française, qui est composée de 107 000 œuvres qui sont à 80% en prix en dépôt dans des musées, des institutions en France et dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment son cœur de métier. Voilà, c'est aussi, je voulais peut-être aiguiller sur deux autres petits points qui peuvent être intéressants ici. Le CNAP est aussi un lieu de ressources qui fait part et pour les artistes, avec un annuaire qui est très conséquent, avec voilà, des guides, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. C'est aussi un lieu de documentation autour de la collection, avec on a 40 000 dossiers d'œuvres et 180 000 visuels des œuvres. Et voilà, suite à cette accumulation d'archives, de documentation autour d'une collection qui a 200 ans, a été créé en 2020 un conseil scientifique qui a, avec l'idée de développer des projets de recherche qui sont vraiment liés à la collection. Il y a notamment une bourse curatoriale qui est vraiment dédiée aux théoriciens, critiques d'art et commissaires qui veulent faire des recherches autour de la collection. Voilà, c'est une petite partie des activités du CNAP, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui.
Placement. Jérémy, tu as la lourde tâche d'enchaîner avec l'artiste-chercheur, c'est quoi ?
Ouais, merci. Je pense qu'on est nombreuses et nombreux ici à se reconnaître dans ce terme d'artiste-chercheur et en même temps que ça recoupe des réalités très différentes. Pour ma part, c'est suite à un doctorat en art que j'ai fait plusieurs post-doctorats dans différentes disciplines, dans des instituts notamment de recherche avancée, où la transdisciplinarité était vraiment au cœur du projet et où j'ai toujours moi navigué entre les sciences de l'art, les sciences humaines et les sciences du vivant, ne pouvant pas me revendiquer en tant que scientifique, mais néanmoins discutant, conversant, agissant et écrivant comme tel. Donc en ce sens-là, je me considère comme chercheur parce que je produis donc du texte scientifique, en tout cas au moins en sciences humaines. Je prends part aux débats et aux conversations sur les sciences du vivant et puis sur les sciences de l'art, donc j'ai produit un certain nombre de choses. Et artiste parce que j'ai toujours accompagné ça en parallèle d'une pratique artistique que je considère comme une démarche herméneutique, c'est-à-dire comme une démarche de pensée. Et donc mes films, mes livres, mes installations ont toujours été pour moi des manières de faire de la recherche aussi. Et pour moi, la recherche devait aussi avoir une dimension créative. Donc l'artiste-chercheur, c'est cet endroit un peu... C'est un endroit un peu difficile à trouver, mais qui est tout assez mouvant, où on peut faire de la pensée et de l'imagination et du plastique et du texte sur un même niveau, et que ces éléments-là peuvent s'incarner, se matérialiser, soit dans une publication académique, soit dans une œuvre vraiment purement artistique, soit dans une création hybride qui soit entre l'académique et l'artistique.
Et quand on a préparé ce temps de discussion, on échangeait ensemble et on se disait qu'on avait des profils en fait, qui se construisaient un petit peu en symétrie. Il y a un peu de ligne de force sur les profils d'artistes-chercheurs ou de chercheurs-artistes aujourd'hui. Ceux qui ont plutôt un parcours académique et qui s'emparent des écritures qu'on appelle aujourd'hui alternatives en sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Et puis des gens comme moi qui, au contraire, ont plutôt un ADN et un parcours d'école d'art et qui, en fait, intègrent les mondes académiques et notamment l'université. Cité par le prisme du doctorat, ce qui pose un certain nombre de questions. Et quand on échangeait, on était d'accord pour se dire que d'un côté comme de l'autre, on arrivait à préserver une sorte d'équilibre entre les productions artistiques et académiques, en tout cas dans la manière dont on mène les projets, mais qu'il y avait peut-être deux endroits où c'était un peu retors peut-être ça fera l'objet de questions et de débats, mais en tout cas de points d'amélioration possibles. La professionnalisation. En fait, il y a une nette valorisation de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, de ces écritures dites alternatives. Mais en fait, les champs professionnels dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'art sont relativement cloisonnés et il est assez difficile en fait de mener sa carrière dans cet entre-deux. Ça tend à évoluer bien évidemment, mais c'est quand même relativement sectorisé en fait. Le deuxième endroit, c'est la diffusion. Peut-être que tu peux en dire deux mots, les espaces de diffusion qui sont un peu adaptés à accueillir des projets qui sont vraiment d'égale importance sur ces deux aspects de la production de forme et de connaissances.
Oui, c'est vrai que dans les deux domaines, rapidement, il y a beaucoup de... On remarque beaucoup de discours concernant cet appel aux arts, aux écologies, aux sciences du vivant, aux sciences humaines, tout ça un peu mélangé. Après, c'est vrai que pour obtenir des financements, des bourses de recherche, des postes, en fait, tout de suite, le discours est inversé. Il y en a, faut pas non plus déconner. En fait, il faut chacun son truc. Donc, en fait, il y a toujours cette limite-là. Et de même, dans le domaine de la diffusion, j'ai remarqué, en tout cas pour ma part, que c'était souvent difficile de, dans le domaine de l'art, notamment de l'art contemporain, de pouvoir avoir une place pour la diffusion pour des œuvres qui étaient ancrées dans une démarche de recherche, et notamment ancrées dans des labos, ancrées dans l'académique, et que ce soit pour trouver des financements en amont ou pour faire la diffusion, en fait, ça fait presque 15 ans que je fais ce type de demande. Ça évolue, mais en fait, c'était quand même toujours « Ah non, c'est un projet de recherche. »« Ah non, c'est trop académique. » Ah non, c'est... Et donc, je comprends, en fait, il y avait des choses que je comprends. Mais il y a aussi vraiment une difficulté à penser à la fois la pensée scientifique comme une démarche créative et la matière artistique comme une démarche de pensée. Et donc, c'est cet endroit un peu difficile à conceptualiser pour des cas de mise en pratique à la fois disciplinaire et d'exposition, où en effet moi je vois une limite. Alors qu'on peut produire, ça, c'est assez possible de bricoler dans la production, c'est difficile, le financement c'est difficile, mais c'est encore plus difficile de diffuser vraiment ce type d'œuvres qui ne sont pas sur des rails préexistants. Donc il faut à la fois construire les rails tout en faisant l'objet.
Merci. Peut-être qu'on peut faire un petit tour d'horizon des dispositifs de soutien du CNAP. Et là, je vous passe la parole à toutes les deux.
Tu veux la micro, c'est ça?
Donc, au CNAP, on a 12 dispositifs de soutien, donc pour les artistes et les professionnels. Donc, 3 pour les artistes, 1 pour les maisons d'édition, donc pour les livres et pour les étrangers, pour les galeries d'art, pour les théoriciens et critiques, pour faire des travaux de recherche. Et en dernier pour les maisons de production. Pour donner quelques chiffres mais qui donnent un peu une idée quand même de notre travail, on reçoit à peu près 1300 demandes par an, entre 1300 et 1400, et on aide 300 projets, donc en majorité des projets pour les artistes, et on a un budget de 1,7 million d'euros. Peut-être deux petites choses qui cassent un peu une image qu'on a de l'institution. Parmi ces soutiens, près de à peu près 80% sont portés par ce qu'on appelle les primo-bénéficiaires, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent nous voir pour la première fois, enfin, qui ont bénéficié pour la première fois d'une aide. Donc voilà, on a un peu toujours cette image de on est toujours les mêmes gens et l'institution ne va pas avoir tout, donc c'est pas vrai. Et une grande majorité de femmes, depuis plusieurs années, en grande majorité, par exemple, très élevée, d'après 70%, entre 70 et 80 selon les dispositifs, mais de soutien qui sont voilà, axés, portés par des femmes.
Donc moi, je travaille spécifiquement sur un dispositif qui est à destination des artistes. Et effectivement, donc, j'étudie à qui vont ces aides, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés, et ensuite quels effets ça peut avoir sur les carrières à court terme et à plus long terme.
Est-ce que tu as déjà des résultats que tu peux peut-être dessiner, même si je sais que c'est un travail en cours, voilà, est-ce que des petits points de compréhension?
Oui, effectivement c'est en cours, notamment pour les effets à plus long terme, mais à court terme on voit quand même qu'il y a des effets de médiatisation sur la carrière. Déjà, l'espace de commission, c'est un moment où les membres de commission vont prendre connaissance de tout un tas de dossiers. Estelle le disait, il y a énormément de dossiers. Là, ces dernières années, on était en 2023-2024, on était à plus de 400 candidats. Donc en fait, les membres de commission qui sont là pour 3 ans brassent quand même un certain nombre de dossiers. Donc il y a un effet de médiatisation, de visibilisation. À court terme, il y a aussi un effet de se maintenir dans la profession, puisqu'on a les moyens de continuer à produire, donc on peut rester artiste. Certains artistes aussi sont accompagnés ensuite dans leur diffusion par un autre dispositif qui s'appelle Suite, et qui permet à certains artistes qui ont été aidés à travers un soutien du CNAP à ensuite collaborer avec un lieu de diffusion des artistes Run Space, et donc à montrer leur travail. Tout ça, ça crée aussi des supports de diffusion, des photos, des discours. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a ces effets-là, en tout cas à court terme. Et à long terme, justement, c'est l'objet de mon travail, de voir dans quels espaces ça a une influence symbolique, et aussi pendant combien de temps, auprès de quel profil.
Merci. Comme je vous disais en introduction, ICAR a vraiment l'ambition de fédérer les énergies et les ressources qui existent déjà. Et j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps, en effet, pour parler d'un guide qui est édité par le CNAF depuis plusieurs années, je ne sais pas exactement depuis quand, et qui recense de manière non exhaustive, mais néanmoins très détaillée, tout un ensemble de dispositifs d'aide, d'aide à la création. Et voilà, En plus de cette présentation, peut-être que vous pourriez nous dire comment, voilà, quelle est votre méthode pour identifier les aides que vous décidez de relayer, qu'est-ce que serait une bonne aide et en symétrie, et puis le type de structure, en fait, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se dessinent, est-ce que les contreparties également, parce que ce sont des choses qui fonctionnent dans des allers-retours, et puis peut-être un mot sur les dossiers, s'il y a une nécessité de professionnalisation à cet endroit de constitution des dossiers pour répondre à ces
dispositifs. Vous mettre là, s'il vous plaît, parce que c'est pas dans la lumière.
Hors cadre.
Non, la lumière.
Et tu veux qu'on se décale?
Non, après les deux chaises, c'est parfait.
Tu peux
toi aussi.
Ah, vous voulez aussi que je me mette là-bas? Ah, pardon, excusez-moi.
C'est un peu trop jour. Merci.
Lila a évoqué ce guide, donc il s'appelle 225 Bourses et Prix. Sa version papier est quasiment épuisée, mais il est disponible gratuitement en ligne. Donc le principe de ce guide, c'était effectivement de surtout donner des repères pour les artistes, pour qu'ils puissent avoir certaines grandes catégories d'aide. Donc il est classé par discipline. Mais surtout, le principe, c'était de faire une sorte de photographie à un instant T du type de soutien et un peu des évolutions des dernières années. Ça donne une sorte d'état des lieux du soutien à la création, avec quelques points saillants. Donc la majorité de ces soutiens, de ces bourses sont vraiment dédiés à des actions, à des acteurs publics. C'est vraiment eux qui les portent, toujours en grande majorité. Même si le guide montre bien que depuis une petite dizaine d'années, des acteurs privés aussi sont de plus en plus présents. Il rencontre aussi de thématiques qui, dans les bourses et les prix, sont de plus en plus prégnantes. C'est un peu ce que disait Jérémy tout à l'heure. On va avoir de plus en plus des bourses très spécialisées, donc autour de la parité, donc vraiment des aides et des prix dédiés aux femmes, des choses autour des enjeux écologiques. Vous avez vraiment des bourses qui ont trait, par exemple, uniquement à l'eau. C'est vraiment quand même très, très spécifique. Et aussi de plus en plus des spécificités territoriales, c'est-à-dire que vous allez un peu c'est pas vraiment des contreparties, mais ça va être vraiment vous postulez à telle bourse parce que c'est dans telle région et que tel département a envie d'approfondir tel ou tel sujet. On va pas tellement, finalement, en traversant un peu ces soutiens, on se rend compte que c'est pas tellement des contreparties, mais ça va être vraiment d'être ciblé. C'est-à-dire que son travail, travail artistique est de plus en plus précis dans cette démarche de demande de bourse ou de soutien. Et peut-être le dernier point qui est aussi saillant depuis quelques années, ça va être vraiment un soutien à la professionnalisation. Le fait de travailler en réseau et de se professionnaliser, ce qui, du moins mon sentiment, était quelque chose qui n'était pas du tout abordé ni par les écoles d'art, ni par le secteur. C'était vraiment que chacun pour soi et débrouillez-vous. De plus en plus ces dernières années, on sent qu'il y a ce besoin de faire collectif, de faire réseau et d'aider de plus en plus les artistes auteurs à se professionnaliser et à se soutenir aussi. Je ne sais pas si je réponds.
Très bien. Pour compléter un petit peu sur qu'est-ce qu'une bonne aide, sans y répondre, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai pu noter que je trouve assez intéressant. En observant les procès-verbaux entre 2000 et 2024, donc on voit les discussions entre les membres de commission, et en fait on voit que c'est les questions des contours, de définir les contours du soutien, de à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on soutient, en fait sont discutées à chaque commission, sont remis en question, et que ça finit par faire évoluer le dispositif d'année en année. Initialement c'était que la recherche qui était soutenue, ensuite il y a eu la recherche et la production, d'abord que à l'étranger, puis aujourd'hui aussi
en France. Donc, ça veut dire qu'il y a un soutien des pratiques d'atelier qui n'existaient pas avant. Donc, en fait, on voit que les aides évoluent aussi en fonction des problématiques, des discussions, et sont portées donc, autant par les membres de droit, donc, le ministère, le CNAP, etc., que par les professionnels qui font partie de ces membres de commission et qui sont autant des commissaires d'expo que des artistes.
C'est vrai que c'est intéressant cette question de... il y a de toute façon dans la création artistique une démarche de recherche, quoi qu'il arrive, qui est proprement, enfin qui est propre à la démarche artistique aussi. Il y a une phase qui s'appelle recherche, qui correspond pas forcément à ce qu'on entend dans recherche-création, parce que c'est encore la recherche théorique sur des sujets précis qui touchent au savoir scientifique humain et vivant. C'est deux termes qui sont identiques mais qui recoupent différentes choses. Donc quand on dit qu'on fait de la recherche-création mais qu'on est dans une phase de recherche de la création, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des termes identiques qui recoupent pas la même chose, de même que quand on discute avec des scientifiques, il y a des termes comme création, comme sensible, comme imaginaire, comme art, qui en fait recoupent des réalités complètement différentes pour les uns les autres. Et donc il y a vraiment cette question de la terminologie qu'on utilise dans ces domaines qui sont très partagés et qui sont très donc différenciés, mais qui partagent des mots communs. Et comment est-ce qu'on les redéfinit, comment est-ce qu'on les précise, comment est-ce que cette partie de la démarche artistique, qui est une partie de recherche, comment est-ce qu'elle se relie à la dimension recherche de la recherche-création, c'est-à-dire postuler une démarche théorique dans un domaine qui n'est pas qu'artistique, mais que en fait de proposer le fait que une œuvre d'art peut avoir un discours sur autre chose que l'art. Et ça, c'est une dimension recherche. Mais c'est pas la même chose que le moment recherche d'une création. Donc, c'est ça qui est...
Oui, on s'est très vite aperçu qu'il y avait une nécessité aussi d'avoir un langage commun et que les termes qui sont utilisés, qui sont les mêmes, ne recouvrent pas du tout les mêmes réalités d'un milieu à l'autre. Donc oui, il y a du travail à ce niveau-là. Peut-être pour, en guise de conclusion et d'espoir aussi sur l'évolution relativement rapide de ces dispositifs, avec Estelle, on avait pensé à un dernier point que tu avais très joliment appelé les pas de côté, et notamment autour de la question des lieux et des artistes run space, et juste peut-être sans nécessairement que tu y répondes, mais voilà, quelles innovations en termes aussi de lieux et d'espaces mutualisés on pourrait imaginer pour les profils d'artistes chercheurs. Voilà, je pense que c'est une question peut-être qu'on pourrait aussi creuser ensemble.
Oui, Sarah, on a parlé un petit peu. On a un programme qui s'appelle Suite, qui existe depuis 10 ans, avec l'idée de démarcher des artistes run space. Donc, on a commencé d'abord avec des lieux en France, et depuis 3 ans, on travaille aussi avec des lieux en Europe. Donc, c'est des lieux qui sont vraiment portés par des artistes, donc par et pour des artistes, et qui se développent très largement. Donc, c'est un peu pour moi une sorte d'ovni des arts visuels, et c'est un lieu que je trouve passionnant, qui a des formes très différentes. Donc ça peut être un tout petit atelier, c'est un parfois très grand, ça peut être un lieu d'exposition, de diffusion, et il y a vraiment cette idée d'artistes qui invitent d'autres artistes à venir créer chez eux, à exposer chez eux, à rencontrer leur public. Voilà, c'est un modèle qui est assez agile, qui est ancré sur le territoire, qui est ancré aussi dans la vie et les besoins des artistes. Voilà, c'est vrai que dans ces pas de côté-là, à mon sens, c'est vraiment un lieu de diffusion que je trouve vraiment intéressant et sans doute voilà, un peu à suivre à venir.
N'hésitez pas pour un commentaire, mais si vous avez des questions, je vais faire circuler un micro. On pourra en prendre peut-être une ou deux seulement et continuer après.
Non, je voulais juste dire que je trouvais ça aussi intéressant comme pas de côté ou comme démarche, cette idée qu'il puisse y avoir aussi une véritable structure institutionnelle de l'artiste dans le labo scientifique. C'est-à-dire que je trouve que dans cette question des arts et sciences, il y a quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est que c'est quand même des projets qui sont souvent très temporaires, très momentanés, où deux personnalités de mondes complètement différents vont se rencontrer pour faire un projet qui est plus ou moins apporté par l'un ou par l'autre, et donc l'un ou l'autre est plus ou moins mis au service de l'un ou de l'autre, et donc il y a des effets de force qui sont inévitables, d'autant plus qu'on est dans un rapport où il y a un titulaire chercheur et un artiste qui fonctionne sur des statuts plus précaires souvent, même si aujourd'hui la recherche est très précaire, mais il y a quand même des rapports de force qui sont différents. Mais tout ça pour dire que je trouve ça intéressant que, en fait, on installe dans les institutions scientifiques des poches artistiques où en fait les artistes sont là à part entière comme un chercheur au même statut institutionnel, mais qui sont là pour produire de l'art avec les chercheurs, mais sans qu'il y ait de mainmise de l'une ou de l'un sur l'autre, quoi. Et enfin, moi c'est comme ça que je travaille et que je trouve que c'est intéressant de...
Oui. Et du coup, est-ce que l'université et les centres de recherche pourraient aussi être une sorte de lieu de diffusion
après, ou
pas du tout,
c'est ça. Vraiment, la question de la diffusion, c'est, je m'interroge, parce que clairement, l'institut de recherche a des grosses limites par rapport à ça. Et comment est-ce qu'on fait la passerelle avec le milieu de l'art contemporain ou en fait le mode de diffusion de l'art contemporain? Vraiment, c'est cet endroit-là où pour moi, il y a un énorme gap que je visualise pas du tout.
Sur le modèle de Béton Salon, par exemple, qui est vraiment inscrit dans une université, il y a vraiment cette vocation-là.
Ouais. Après, ça se fait. Hein. Je veux dire, le Frénois aussi a développé un lycène. Enfin, il y a vraiment un truc qui se fait. Et puis, je trouve que le CNAP aussi propose plein de solutions à ce niveau-là qui sont intéressantes. Quoi. Mais voilà, je trouve que pour l'artiste-chercheur qui est inscrit, dans mon cas, plutôt dans le milieu académique et qui du coup se dépatouille avec les financements académiques pour produire de l'art, c'est vrai que la phase diffusion, il y a une vraie interrogation.
Une autre, avant de passer vraiment définitivement au temps 2, avec Sylvia, on se disait aussi que la réflexion autour des statuts, notamment dans ce lien entre les écoles d'art et les universités, dans le cadre notamment des troisième cycles et des doctorats, le statut de l'enseignant-chercheur qui n'existe pas dans le ministère de la Culture en fait, et dans les écoles d'art, est une question que aussi on peut soulever par le positionnement vraiment à l'échelle nationale d'ICAR, et c'est fort heureux.
S'il y a pas de questions, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jérémy. Hein. Je pense qu'une des solutions, et on n'abordera pas sous cet angle-là dans le troisième temps sur réception publique, hein, je pense qu'une des réponses, c'est la question des publics et de la réception. Et je pense qu'on a trop longtemps pensé la création, la diffusion, la réception, hein, comme des secteurs un peu séparés, même si les choses ont beaucoup, beaucoup bougé. Hein. Mais du coup, je pense que le public, les publics, mais dans leur grande diversité, sont là où peut-être ces deux mondes et ces deux façons de faire pourraient se rencontrer avec les chercheurs, les scientifiques, les dispositifs, les artistes-chercheurs. Et quand je parle public, je pense par exemple aux étudiants qui sont en public et avec lesquels, dans les événements qu'on a fait ensemble Scientifica, on peut aborder des questions très scientifiques, mais par l'entrée artistique. Et l'entrée artistique permet de lever certains freins et résistances, ça c'est clair, déjà, mais permet aussi de produire les connaissances d'une manière différente, qui pour des publics qui sont, entre guillemets, tenus éloignés, pas obligés d'être tous sociologues, artistes, historiens... du coup, on va proposer des entrées par là, avec une expérience sensible, qui permet d'aborder des questions aussi scientifiques sur la bioluminescence, hein, sur l'écologie, sur les problèmes de société. Hein. Et je pense que la réponse, à mon sens, en t'écoutant, elle est peut-être là. C'est-à-dire d'introduire aussi cette question des récepteurs et de ceux qui sont entre et qui peuvent faire le lien, peut-être plus facilement que simplement... les acteurs entre eux qui chercheraient à échanger. Voilà, c'était plus une remarque qu'une question.